Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage! Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour! Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour.
Ils ont pu se permettre de faire un procès à huis clos, puisqu'ils avaient quasiment à huis clos, puisqu'ils avaient interdit l'accès de la salle. Manu Militari aux gens qui étaient venus en soutien aux deux prisonniers qui passaient en jugement, José et Romain, hein, à ce moment-là, et que donc, au bout de, je sais pas, le procès avait duré un bon moment, je me rappelle 6-7 heures, et qu'au bout des 6-7 heures, le procureur avait requis 8 ans ferme contre eux, et que le verdict avait été rendu immédiatement, et que c'était 5 ans pour chacun des deux. 5 ans, c'est une peine énorme. Toutes les peines sont énormes, hein, ça c'est évident, mais c'est vraiment, même dans leur logique à eux, c'est vraiment très très exagéré. C'est vraiment une peine pour l'exemple, et ce qu'on avait déjà dit, mais je le redis là, ils ont mis plus finalement à des gens qui ont détruit collectivement pour pouvoir dénoncer leurs conditions de détention que à 3 personnes qui avaient pris en otage, parce que c'est plus dur. On disait c'est plus dur de prendre des gens en otage, tout le monde n'est pas capable de le faire, tout le monde ne choisit pas de le faire, tandis que détruire collectivement, c'est quelque chose de plus... de plus sympathique dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que réellement, ça veut dire que quand il y en a marre, c'est finalement plus logique de se rassembler, de se réunir et de se faire entendre de cette façon. Donc là, il s'agissait pour eux de faire un exemple et de dire vous amusez pas à ça, parce que on vous rattrape pas, quoi. On n'hésitera pas à vous mettre des années de prison supplémentaires et lourdes.
Salut à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 20 avril. Vous êtes à l'écoute de la quotidienne de l'Envolée, enregistrée en confinement le mercredi 29. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 en région parisienne, et l'émission est reprise par une quinzaine de radios locales en France et en Belgique. Comme hier, vous venez d'écouter un extrait d'une émission de l'Envolée qui revenait sur le procès en appel de Romain pour le mouvement qu'il y a eu au QMC de Valence en 2016, On écoutera d'autres passages dans les prochaines émissions. Ce soir, on va discuter de la justice. S'il y aurait plein de choses à raconter sur comment le droit s'immisce dans toute la société en s'appuyant sur les discours médicaux, et plus précisément le pouvoir médical, aujourd'hui, on va plutôt aller voir ce qui se passe dans les tribunaux. On a déjà un peu raconté à cette antenne les comparutions immédiates dans la justice du confinement. On continue à observer, à chercher, à analyser ce qui se joue dans les tribunaux. On commence par une discussion avec Mathieu Quinquis, avocat à Paris, qui discute les limites du droit et montre comment les juges administratifs défendent l'administration pénitentiaire. Dans un second temps, c'est Pierrot qui nous fait un petit billet sur comment la justice du confinement a simplifié le boulot des juges d'un côté, en réduisant toute possibilité de défense de l'autre, aboutissant à intensifier le pouvoir des juges. On commence donc avec Mathieu. Donc on a avec nous Mathieu Quinquis, qui est avocat à Paris et puis membre du SAF, donc le syndicat des avocats de France. Salut Mathieu.
Salut.
On souhaitait revenir avec toi sur comment les juges en fait ont défendu l'administration pénitentiaire avec les différentes procédures qui ont été tentées par des prisonniers ou par des organismes comme le SAF contre les décisions de l'administration pénitentiaire face à la crise du Covid. Nous, on a un peu recensé toutes les décisions qui avaient été prises par les juges, souvent administratifs. Et c'est un peu fou, en fait, comme les juges administratifs prennent pour vérité ce que dit l'administration. Pensez par exemple au fait qu'ils considéraient que des mesures avaient été prises pour le maintien des liens familiaux, alors qu'on sait que dans la pratique, même s'il y a eu un peu d'argent qui a été donné pour appeler les familles, dans les faits, en fait, les prisonniers ne vont plus aux cabines parce que c'est un lieu de contamination assez élevé. Et vous l'avez ressenti un peu partout, en fait, ce truc où dès que l'administration disait un truc, les juges étaient oui, on est d'accord.
Ouais, complètement. En fait, faut savoir que tout le volet des conditions de détention, il est géré par le juge administratif. Et le juge administratif, il a un fonctionnement un peu particulier parce que il a à sa tête le Conseil d'État. C'est des juridictions qui sont très soumises à ce rapport hiérarchique. Et c'est le Conseil d'État qui a fixé dans une ordonnance qui a été initiée par l'Observatoire international des prisons, le syndicat des avocats de France et l'association des avocats pour la défense des droits des détenus. Le Conseil d'État a fixé la position de la juridiction administrative vis-à-vis de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice. Et il a considéré effectivement que le ministère de la Justice et la pénitentiaire faisaient le boulot, faisaient ce qu'elles pouvaient, mais en considérant que ce qu'elles faisaient était nécessairement bien et que ce qu'elles disaient qu'elles faisaient, elles le faisaient réellement. Alors qu'on sait que déjà ce qu'elles font n'est pas nécessairement bon, on le voit suffisamment tous les jours pour nous permettre de douter de la... comment de la crédibilité de leur politique et du sérieux de leur politique. Et d'autre part, on sait en plus que c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'ils font réellement. Et quand le Conseil d'État a fixé cette position-là, bah, tous les juges administratifs derrière, les juges des référés dans les petites juridictions sur l'ensemble du territoire, bah, ils ont embrayé et ils ont considéré de la même manière que l'administration faisait le boulot.
Et ça, on rappelle le juge des référés, c'est les personnes qui jugent quand tu fais très rapidement.
Un recours en urgence.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est ça.
Pardon, vas-y.
Et ça, en fait, il faut toujours garder en tête que le Conseil d'État, c'est certes le juge de l'administration, c'est lui qui va regarder si l'administration respecte les lois et si elle agit correctement. Mais avant d'être le juge de l'administration, c'est surtout le conseil du gouvernement. Parce que c'est lui qui a un droit de regard sur les textes qui vont être pris par le gouvernement, et là notamment toutes les ordonnances portant adaptation des procédures pénales, judiciaires, administratives, et globalement de l'état d'urgence sanitaire prises par le gouvernement depuis la fin mars. Et donc il est dans cette ambivalence-là, mais ce n'est pas du tout finalement une ambivalence, parce qu'on a bien vu que pendant l'état d'urgence, il a complètement assumé d'être conseil du gouvernement, juge de l'administration, mais juge pour l'administration, et en fait de valider tout ce qu'elle faisait et de rejeter quasiment l'intégralité des recours qui ont été engagés contre lui.
Ouais, parce que c'est ça qui est impressionnant, quoi. Enfin, parce que les prisonniers, en fait, ils demandent des trucs assez simples. Là, je pense à Nanterre, il y avait 4 prisonniers qui avaient porté plainte en demandant simplement des masques, des gants, du gel et l'accès aux douches et puis l'encellulement individuel, ce qui est quand même la base, quoi. Et puis, en fait, on dit, ah, mais non, ne vous inquiétez pas, on a fourni des produits d'hygiène.
Et puis, il y a des mesures pour le maintien des liens familiaux, donc c'est bon. Et voilà. Et ça a été le cas aussi à Lyon, là, où il y a eu une plainte de l'ordre du barreau des avocats. Voilà, enfin, qui était assez impressionnante, où là, les juges ont dit il n'y a aucun élément justifiant de l'existence d'un risque particulier de contamination au sein de la maison d'arrêt. Alors que même, enfin, la prison elle-même, en fait, c'est un risque super dangereux, quoi.
Complètement. Et là, en fait, on se retrouve face aux limites du système, qui est de dire, bah, effectivement, on cesse de répéter que les détenus ont des droits, qu'en plus d'avoir des droits, ils ont des procédures à leur disposition pour les faire valoir. Et ben, en fait, on voit rapidement que, aussi bien dans une situation de crise que dans une situation normale, hein, c'est ce qui a valu la condamnation de la France par la CEDH en janvier dernier, et ben, on voit que les recours qui leur sont proposés, ben, ils sont complètement artificiels, sans effet, et que c'est hyper compliqué pour les personnes détenues d'obtenir réellement quelque chose du juge. Et ça va être uniquement grâce à l'acharnement, en fait, des détenus, grâce à l'acharnement d'associations, de syndicats qui vont pouvoir les accompagner pour porter ces recours-là, mais ça va prendre des années, qu'on va obtenir des petites avancées comme ça. Mais dès qu'on est dans une situation de crise, et donc de crispation, de tension, bah, le juge se referme sur ce qu'il est, c'est-à-dire un serviteur de l'administration et un serviteur de l'État.
Et vous, là, face à ça, parce que c'est quand même un problème, parce que vous savez que même si, parce que vous avez quand même vos clients au téléphone un peu de temps en temps et tout, même si les décisions soi-disant prises par l'administration pénitentiaire sont appliquées, enfin, voilà, vous savez que c'est pas toujours le cas. Et donc là, vous avez décidé de faire une nouvelle requête référée, donc là, c'est plainte très rapide, en constat. Et tu peux nous expliquer en fait en quoi ça consiste ?
Bah, en gros, l'idée, c'est de partir de la position du juge administratif, qui est de dire, bah, moi, je fais conseil à l'administration. Enfin, je fais confiance à l'administration. Bah, on lui dit, OK, chiche, t'as fait confiance à l'administration. Et bah, en fait, la confiance, elle exclut pas le contrôle, comme disait l'autre. Et donc, bah, maintenant, on va aller contrôler. Et on va te demander d'aller désigner un huissier ou un expert pour qu'il rentre dans les établissements pénitentiaires, qu'il aille à la rencontre des personnes détenues, qu'il échange avec elles. Et qu'on pointe tout ce qu'on demandait. Et à chaque fois, quand le juge administratif nous a répondu « Non, mais vous inquiétez pas, l'administration fait ce qu'elle peut sur tel sujet », eh ben chiche, allons vérifier. Et là, on engage donc effectivement des procédures dites de référé-constat pour obtenir la désignation d'huissier ou d'expert dans 25 établissements, un peu partout sur le territoire, aussi bien des maisons d'arrêt que des centres de détention ou des maisons centrales. Et ben on va faire le point. Puisqu'il voulait lui faire confiance. Nous, on n'a pas tellement confiance en l'administration pénitentiaire, donc on ne lâchera rien pour aller vérifier jusqu'au bout avec les armes du droit, parce que c'est notre arme à nous en tant qu'avocat. Et puis, une fois qu'on aura les rapports, eh ben, on fera très précisément le bilan. Est-ce qu'il faut repartir sur des nouveaux contentieux pour contraindre l'administration à agir ? Et si jamais on voit que c'est trop bouché, eh ben, c'est pas grave. On engagera directement la responsabilité de l'État en considérant que les personnes détenues ont subi des préjudices et qu'à un moment, il va falloir payer, quoi.
Et ça, c'est des gens qui pourront... Enfin, si jamais c'est accepté, c'est des gens qui pourront revenir plusieurs fois ou ils vont juste venir une fois et, parce que, bon, j'imagine, tu vois, comme pour le contrôleur, le jour où le contrôleur, il arrive... les douches sont bien nettoyées, voilà. Là, ça se passerait... Enfin, ça permettra une continuité quand même.
Bah, la continuité, il faudra simplement qu'on demande de nouveau à ce que l'établissement soit contrôlé. C'est sûr que ça ne sera pas évident parce que le juge, il aura accepté une fois, il va dire non mais c'est bon, avez la situation, vous avez une photographie de la situation, donc ce n'est pas dit qu'il fasse droit de nouveau. Mais on espère aussi que dans les prochaines semaines, on aura beaucoup plus de facilité, nous, en tant qu'avocats, pour rentrer et pour recueillir directement les infos auprès de nos clients et de leurs proches.
Merci beaucoup, Mathieu Quinquis.
De rien.
Donc, on va suivre avec attention les prochaines décisions pour vérifier un peu l'application d'un certain nombre de mesures.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour compléter cette émission spéciale justice, un petit billet très inspiré d'un texte paru sur un blog que je vous incite à aller visiter qui s'appelle mitarduconfinement.blog. Donc dans ce texte publié le 8 avril, il questionnait déjà une phrase que l'on n'arrêtait pas d'entendre et qu'on continue à entendre dans l'océan de mensonges qui nous est déversé aux oreilles dans la presse. La justice française serait au ralenti depuis le début de la pandémie. Alors examinons ce que ce ralentissement signifie pour celles et ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire celles et ceux que la justice arrête, condamne, emprisonne, en d'autres termes, nous. Ce ralentissement désigne en fait une réorganisation qui établit que du côté du juge, le boulot est ultra simplifié avec des procédures accélérées, quasi automatisées pour les condamnations et l'attribution des peines. Et de l'autre, du côté de l'inculpé, des procédures sont totalement ralenties, voire à l'arrêt pour les recours, les appels et les autres demandes. C'est ça la réalité. C'était vrai le 8 avril, ça ne fait que s'amplifier depuis. En somme, ce ralentissement de la justice veut dire qu'une marge de manœuvre énorme est accordée aux autorités judiciaires, tandis qu'il y a une réduction drastique de l'autre côté de celle minimalement accordée à la défense en temps normaux. Il y a donc que pour se défendre et que pour les justiciables que la justice est véritablement au ralenti. On le voit du côté des soi-disant mesures de désengorgement des prisons, on n'arrête pas d'en parler dans les flashs quotidiens, les prisonniers malades restent pour la très grande majorité en prison, les aménagements de peine pour les prisonniers aménageables mais à plus de 6 mois de leur sortie sont repoussés et les dates ne tombent pas, les caps sont repoussés de plusieurs mois. Des prisonniers étrangers sont sortis de prison pour être enfermés immédiatement dans des centres de rétention qui ne sont pas fermés en fait. Et au final, pour faire bonne figure avec des chiffres de sortie qui oscillent entre 5 000 et 10 000 personnes dans le mois en fonction des sources, on inclut finalement des prisonniers dont les fins de peine étaient déjà prévues dans la période, ainsi que les prisonniers qui ne sont pas rentrés en prison pendant cette période. Bref, alors non seulement donc les prisonniers ne sortent pas, mais cette réorganisation peut être vue comme une intensification, dit ce texte, des capacités de nuisance de la justice et de ses bureaucraties pour le plus grand malheur des révoltés. En effet, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 du 23 mars 2020, elle a établi, et ça ne s'est pas démenti depuis, que désormais, les jugements peuvent être rendus avec un seul juge au lieu de plusieurs habituellement en correctionnel, ainsi qu'en application des peines, que les détentions provisoires peuvent être prolongées, on l'a dit longuement, jusqu'à 6 mois supplémentaires, on recommande même aux tribunaux de le faire systématiquement, qu'on peut étudier les demandes d'aménagement de peine sans la présence physique de l'inculpé et en dehors de débats contradictoires, ce qui les repousse en fait les réponses positives, que le juge des enfants peut prolonger sans aucune audience ni consultation des mesures éducatives correctionnelles, comme les placements par exemple, tandis que les délais d'instruction des demandes de mise en liberté sont allongés de 1 mois et on allonge sans limite les délais d'audiencement à la comparution immédiate. Les gardes à vue elles-mêmes peuvent, en amont de la comparution immédiate, être prolongées sans avoir à être présentées devant un magistrat aussi. Le recours à la visioconférence est privilégié et quand c'est impossible, tant pis, une gaffe peut désormais se faire sans voir un avocat, on l'a dit, des avocats l'ont dit dans certaines émissions des semaines passées, et les parloirs entre avocats et détenus n'ont pas lieu, même lorsqu'une procédure de demande de mise en liberté est en cours. L'actuelle donc justice du confinement, pour reprendre la jolie expression du texte de Mitard du confinement, met en pratique des formes de réformes qui étaient largement antérieures à la pandémie afin d'arriver à une justice aux procédures automatisées, simplifiées, notamment en comptant sur l'utilisation des nouvelles technologies. D'ailleurs, au beau milieu de toutes ces modifications du fonctionnement judiciaire, un décret met en place pour les 2 prochaines années le développement d'un nouveau algorithme, DataJust, un algorithme qui créera un référentiel des indemnisations pour les préjudices corporels, alors vendu à coup de neutralité, de transparence et de mesures indiscutables des peines qui vont nous tomber dessus. Nous n'aimions pas la justice d'hier, nous n'aimerons pas celle de demain.
Merci Pierrot pour ce bouillet. Bah pour une fois, t'as réussi à pas faire trop long, poteau. Bon, en tout cas, ces disputes sur la justice du confinement doivent se poursuivre, car l'état d'urgence sanitaire ne s'arrête pas avec la fin du confinement, et les préfets vont avoir leurs pouvoirs qui seront renforcés. Donc, faudra vraiment rester vigilant à ce niveau-là. Pour finir, avant de passer au coucou, on va raconter ce qui s'est passé à Fresnes. Le centre pénitentiaire de Fresnes, c'est l'une des prisons les plus crades de France. Il y a environ un an, ça avait bougé dans cette tôle où les mouvements collectifs sont vraiment pas évidents, vu que les promenades sont très petites. Généralement, on est une quinzaine en promenade dans une toute petite cour. À l'époque, il y avait plusieurs promenades qui s'étaient passées entre les murs de séparation, qui s'étaient réunies pour demander la fin des fouilles à nu après les parloirs. Depuis le début du confinement, c'était plutôt calme à Fresnes. Il faut dire que depuis un an, en fait, il y a les ELAC, les équipes locales d'action et de contrôle, qui sont présentes dans les bâtiments. Et puis, ils tabassent des prisonniers sans complexe. Ils multiplient les fouilles de cellules qui laissent généralement bien retourner, quoi. Alors qu'en raison de l'absence de parloirs, certains établissements ont réduit un peu les fouilles en cellules. En ce moment, à Fresnes, les ELAC ils se lâchent complètement, avec 4 à 5 fouilles par jour dans les étages. Et donc, il y a un bâtiment qui a pris feu. Voilà, le toit s'est effondré et tout. En dehors de la détention, hein, c'est un bâtiment de stockage de trucs. Et ce bâtiment, bah, il était juste à côté de celui des ELAC. Et l'administration, au lieu de faire le lien entre ces deux choses. Elle a tout simplement réprimé 16 prisonniers qui avaient vu sur le bâtiment, en fait, leur cellule voyait. Et voilà. C'est ce qui est raconté par l'épiscopie du Parisien. Donc, bah, on souhaite en tout cas plein de force et de courage à tous les prisonniers de Fresnes. Ceux d'hier à qui on a déjà passé le salut, vous reconnaîtrez, bien sûr. Un grand salut aussi à Shelly, à Slim, à DKP, à CLR et à Allo. Une grosse pensée aussi à Damien, si tu nous entends dans le sud, plein de force à toi. Une grande pensée aux prisonniers des QHS modernes que sont les QI et les quartiers détenus violents et ceux qui sont au mitard. Un grand salut à tous les prisonniers et les prisonnières de France, ainsi qu'à leurs proches. N'hésitez pas à nous donner des news. On est sur tous les réseaux sociaux, Snap, Facebook, Insta, Twitter, ou sur le téléphone 07 52 40 22 48 et les messageries Signal, Telegram ou WhatsApp. Force, courage et détermination. À demain pour l'émission d'une heure et demie. Il n'y a pas d'arrangement.